Bondi Blog Café.
www.bondibloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre deuxième émission du Bondi Blog Centre de cette nouvelle année 2019. Aujourd'hui, en ce mercredi 16 janvier, je vous propose d'écouter la deuxième partie, la suite du témoignage que vous avez écouté la semaine dernière. Il s'agit de Jean Souris, ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a des gens qui ont voulu résister, qui n'ont jamais pu le faire, ils n'ont jamais pu entrer en contact avec des résistants. Tellement on se méfiait, la sécurité c'était primordial, vous voyez. Il fallait faire très très attention. Donc, des renseignements, quand on a commencé, parce que distribuer les tracts, ça ne pouvait pas toujours durer. Il fallait pas les tracts, il fallait essayer de convaincre notre peuple qu'il ne fallait pas accepter la situation. Il fallait expliquer qu'il y avait à Londres un général qui avait refusé de capituler. Et puis, il fallait montrer aussi que la guerre... Elle évoluait. Au fur et à mesure que les années passaient, la guerre évoluait sur tous les fronts. Alors, évidemment, j'ai passé le truc, mais j'en arrive au 11 novembre 1942, quand les Allemands ont envahi la France, la zone sud. Ça a changé l'opinion des gens. Quand les gens ont commencé à voir les bannières étoilées à flotter sur tous les édifices publics, comme à Limoges, les gens, ils ont réagi, ils ont dit ça, cette fois, on est bien occupé quand même. Hein. Vous voyez ? Donc, ça a fait évoluer la mentalité des gens. Et puis, si on prend les années qui... La difficulté de la vie a manqué de tout. Les gens avaient froid. Il n'y avait pas de charbon. L'électricité se faisait rare, parce que dans les campagnes, l'électrification n'était pas faite. Tout au moins pas totalement finie. On a été très loin. Vous voyez, donc on était en retard, comparé à l'évolution d'aujourd'hui, on était en retard, très très en retard dans nos campagnes. Il y avait des villages, il fallait y aller par des chemins forestiers, par des chemins charretiers. Donc les gens qui se déplaçaient à pied, ils prenaient des petits sentiers dans la montagne, ils ne prenaient pas les chemins charretiers qui étaient souvent pleins de boue. Vous voyez, donc il y avait des raccourcis, ce qu'on appelait. Le facteur, il passait par des raccourcis, avec ça, des petits sentiers dans la montagne. À force d'y passer, ça faisait des petits trucs. Voilà. Et nous, on utilisait ces sentiers-là plus tard, dans les maquis, vous voyez, pour se déplacer. C'était pratique. Donc, voilà. Mon père me disait, par exemple, je cite un exemple, hein. Il me dit, qu'est-ce que c'est cette traction-là qui sont chez Raymond. Alors Raymond, c'était le fils du propriétaire, du boucher. Parce que le boucher, il y avait le magasin de boucherie au bourg. Et à la campagne, il y avait la grosse ferme. Et le fils habitait à la campagne. Moi, je travaillais à la campagne. Je vivais avec les patrons. Moi, je mangeais avec les patrons, avec le patron. J'allais que coucher chez moi. Donc, j'ai pas souffert de la faim, moi. Vous voyez ? J'ai travaillé chez un boucher... Une grosse ferme en plus, et puis le beau-père du patron était boulanger et meunier, donc on mangeait toujours du bon pain et on mangeait de la bonne viande. Le problème, c'était la quantité. Quantité, moi, ça faisait juste. Hein. Donc, quand il y avait un maître domestique, qui dirigeait la ferme, évidemment. Hein. C'est lui qui dirigeait toute la ferme. Et quand les patrons n'étaient pas là, j'allais manger chez les maîtres domestiques. Alors là, je me régalais. Là, le salé, le chou, le haricot, là, c'était le gueuleton pour moi. Vous voyez. Mais enfin, ça fait partie de la vie de cette époque. Hein. Quand on est jeune, on mange énormément. Vous comprenez. Et puis, les travaux des champs, ça a épuisé quand même. Hein. Alors voilà qu'elle était... Notre travail, ensuite l'organisation, la résistance, évidemment, quand les Allemands étaient occupés, bon, la lutte a pris différentes formes. Il a fallu en arriver, par la suite, à la résistance armée. On ne pouvait pas continuer à distribuer des tracts comme ça en permanence. Ça ne suffisait pas. Il fallait remettre la France dans la guerre. Vous voyez ? Donc la première partie de ceux qui ont résisté, c'était ce qu'on appelle la résistance civile. Ensuite, il a fallu... organiser la résistance armée. Mais la résistance armée, voilà, il fallait des armes. Déjà, pour faire les tracts, on avait beaucoup de difficultés à faire des tracts, puisqu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'encre. Les résistants n'étaient pas équipés en matériel pour imprimer des tracts. Ça se faisait dans des conditions très, très difficiles. Le responsable de la résistance en Limousin, Georges Guingouin, qui était instituteur et en même temps secrétaire de mairie dans une petite commune, lui, quand il est parti dans la clandestinité, il est parti très tôt dans la clandestinité, c'était un des premiers marquisards de France d'ailleurs, il avait amené avec lui papier, tampons pour faire les fausses cartes d'identité et tout. Il avait tout amené avec lui, vous comprenez, il avait des conditions, c'était créé des conditions un peu plus faciles pour organiser l'action clandestine. Mais tout le monde n'était pas dans la même situation. Donc il fallait gagner la population, il fallait gagner tout un tas de gens à la lutte armée. Donc c'était le travail d'explication de distribution des tracts. Et la lutte armée s'est posé le même problème où trouver des armes. Et c'est là que ce revolver a eu de l'importance. Parce que les premières armes qu'on a eues, on les a prises aux gendarmes. Parce que les gendarmes, à l'époque, ils avaient des mousquetons. Ils avaient leur revolver. Mais les gendarmes, quand ils se déplaçaient à 2-3, c'était facile avec un revolver, pour peu qu'ils soient un peu complaisants. Vous voyez, ce qui était le cas souvent de fois. Ça nous permettait de récupérer quelques armes. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de munitions avec eux. On ne pouvait pas faire une guerre avec ça. Mais avec ce peu d'armes qu'on avait, on pouvait en récupérer d'autres déjà. Et c'est comme ça qu'on a organisé la lutte armée. Et là, on en arrive bien sûr aux organisations de résistance. Il y avait deux grandes organisations de résistance en France. Il y avait la résistance gaulliste, bien sûr, que le général de Gaulle, et il y avait la résistance communiste. Le Parti communiste était la seule organisation qui n'avait pas sombré sous le fascisme. Vous voyez ? Donc, deux organisations de résistance principales, tout le reste était rattaché à l'un ou à l'autre. Mais il y avait deux conceptions différentes de la guerre. Oui. Donc, le général de Gaulle, lui, sa position, c'était de préparer le débarquement, créer des forces. Ce qu'il avait dans son appel du général de Gaulle, il appelait, lui, les militaires à le rejoindre. Ceux des arsenaux, tout ça, il n'appelait pas la résistance intérieure. Vous voyez ? Il appelait les militaires, tous ceux qui voulaient se battre, aller le rejoindre à Londres. Pour former les forces françaises libres, ce qu'il a fait d'ailleurs. Vous voyez ? Et le Parti communiste, lui, disait non, il faut se battre aussi à l'intérieur. Il ne faut pas laisser notre peuple attendre, comme si il était au théâtre, là, au cinéma, regarder que les événements se passent. Il faut faire participer notre peuple à la lutte armée aussi. Parce qu'on avait participé déjà un peu à la lutte à la propagande contre Vichy, contre la propagande de Vichy. Et la propagande allemande, il fallait aussi que notre peuple participe à sa propre libération. Et heureusement qu'on l'a fait. On verra plus tard. Vous voyez ? Mais De Gaulle n'était pas convaincu de ça. Et c'est Jean Moulin qui a dit au général De Gaulle, mais mon général, il y a des gens qui veulent se battre sur le territoire français. Et vous auriez tort de les sous-estimer. Et De Gaulle, pas bête, il s'est dit, oui, vous avez raison, Jean Moulin. Donc, ça n'a pas été facile, vous voyez. Mais ça s'est fait. Le Parti communiste s'est rallié au général De Gaulle. Vous voyez. Donc, avec deux tactiques différentes, les deux ont été utiles. Il y a eu les forces françaises libres qui étaient autour du général De Gaulle. Et il y a eu les forces françaises de l'intérieur, où le Parti communiste, enfin, pas seulement le Parti communiste, mais le Conseil national de la résistance avait pris les choses en main. Là, j'extrapole un petit peu les événements, mais voilà. Il y avait deux grandes forces, mais on n'en est pas là pour l'instant, à l'époque où je parle là. On n'en est qu'au début de la résistance armée. Vous voyez ? Donc, Comment faire la résistance armée avec peu d'armes qu'on avait? Alors, même dans le Parti communiste, tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de faire la résistance armée. Il y a ceux qui pensaient que ça devait se passer que dans les villes, et les autres qui pensaient que ça pouvait aussi se passer dans les campagnes. Gainguel, lui, était pour la résistance armée, mais dans les campagnes, milieux ruraux. Alors qu'il y avait d'autres dirigeants qui étaient d'abord, après la guerre, ça a fait des problèmes, tout cela. Ça ne s'est pas réglé comme ça aussi facilement. Mais comment ça s'est passé dans les régions, dans les villes? La résistance armée dans les villes, Paris par exemple et Lyon. Dans deux grandes villes, mais surtout Paris, l'occupant, il pouvait pas être partout. Il ne pouvait pas occuper pas tout Paris. Donc, c'était facile, enfin facile, entre guillemets quand même. Hein, quand je dis c'était facile, c'était pas si facile que ça, mais on pouvait faire des actes terroristes dans la région parisienne, à Paris, qu'on ne pouvait pas faire dans les autres villes. Je prends l'exemple de Limoges, par exemple. Il n'y a pas eu d'attentat dans la ville de Limoges, pratiquement. C'était impossible. La pression de l'adversaire était telle qu'on ne pouvait rien faire. Donc il fallait bien sortir. Vous voyez ? L'état-major FTP, parce qu'il y avait beaucoup de résistance FTP dans le Limousin, l'état-major FTP était obligé de quitter la ville parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus se déplacer, il ne pouvait plus rien faire. Ni contact, ni rien. L'état-major était installé dans la région de Blond, entre Blond et Bellac, dans les bois du roi qu'on appelle à l'époque. Mais ça ne vous dit rien du tout, l'endroit, mais c'est dans des forêts. L'état-major était installé là-bas. Vous voyez ? Donc, les deux positions étaient bonnes selon la ville. Si c'est des grandes villes, c'était possible. Et dans les petites villes, comme Limoges et tout, c'était pas possible. La pression. Limoges est une ville fortifiée. On a des photos là-dessus, je ne les ai pas amenées, mais je ne pourrais pas vous les passer à tous. Il y avait des blocos au centre de la ville. Sur les places publiques, il y avait des blocos entourés de barbelés. À l'entrée des villes, il y avait des blocos avec des chicanes pour entrer. Vous voyez ? Et il y avait des petits tramways à l'époque qui servaient des gens de la campagne d'aller en ville et de ceux de la ville d'aller à la campagne. Il y avait l'octroi à l'époque. Il y avait des octrois où il fallait les gens qui allaient vendre du produit, les paysannes, tout ça, il fallait qu'elles déclarent, qu'elles payent un impôt, une taxe. Et là, il y avait fouille. Vérification des papiers d'identité, etc., etc., fouille des bagages et tout. À l'aller, à rentrer en bourg et en sortant. Et là, pas pire, soit c'était la Wehrmacht, etc., c'était la Gestapo, la milice, et c'est pas des gens qui blaguaient. Hein. Le jeune qui était un peu suspect, faisait sortir, on ne le voyait plus. Oui. Donc, passer des armes, faire entrer des armes dans Limoges ou les faire sortir, c'était, ou des tracts, quel que soit matériel, c'était assez compliqué. Hein. Donc, on servait des fois, nous, des jeunes à passer des choses. Il fallait trouver des combines un petit peu, parce qu'on risquait d'être pris. Donc on avait... Je prends un exemple, vous étiez dans un compartiment, un monsieur arrive, pose une valise là, et dit, tiens petit, je reviens, tu me gardes la valise, je reviens. Bon, le monsieur il part, mais il ne revient pas. Oui. Le train s'en va, voilà. Et là, vous êtes vous avec la valise. Et ça arrive à Limoges. Bon, si tout est calme, la valise, elle est récupérée. Vous comprenez ? Parce que vous êtes dans la combine. Mais les gens qui sont là, dans le compartiment, sont témoins que c'est un monsieur qui a déposé sa valise. C'est pas la vôtre. Donc s'il y a contrôle, la valise, elle n'est pas à moi, c'est un monsieur qui est venu demander aux gens, là, bah, oui, c'est un monsieur, ce petit garçon, il est pour rien, là. Voyez, voilà. Et la valise, elle passait. Oui, c'était... Il fallait imaginer un tas de choses. Et on avait beaucoup la complicité aussi des employés des chemins de fer, hein, pour ça. Il y avait une organisation spéciale, parce qu'il y avait des cars, il y avait des tramways, il y avait des cars. Donc on avait une organisation secrète dans ces milieux-là, de façon à faire passer soit des personnes, des clandestins, ou du matériel. Il fallait organiser les choses. Il fallait convaincre les gens à la lutte armée, hein, qu'il fallait se battre, qu'il fallait résister. C'était tout un travail d'explication. Et l'exemple, je n'ai pas terminé les tractions là, qui venaient à la maison, à la ferme, à la campagne, chez le patron. Et je dis à mon père, mais c'est là, vous voyez, comme quoi je change un peu les choses, mais ça vient comme ça, les idées. En vieillissant, vous savez, la tête, elle commence à... Enfin bref, vous verrez comment ça se fait. Si vous arrivez à un bon âge, ce que je vous souhaite, hein, j'ai dit c'est la police secrète qui vient. Alors la police secrète, les belles tractions, bien sûr, des 15 à l'époque, ils venaient se ravitailler. On leur préparait des valises, ils partaient avec ça. Et mon père me dit, oh, faut arrêter ça. Hein. Bon, alors. Alors à l'époque, ceux qui faisaient du trafic comme ça, on faisait des petits cercueils en bois. Et premier avertissement. Oui. Au deuxième avertissement, puis troisième, là, c'était paf. Donc le patron de la boucherie reçoit ce cercueil, premier avertissement, etc. Alors la police secrète, elle venait plus. Mais on préparait, parce que moi je participais à ça aussi, hein, avec le patron. On préparait les valises. Alors c'est le patron, on préparait les valises, puis c'est lui qui allait les amener, il allait les retrouver ailleurs. Donc. Bon, j'avais dit à mon père, ça continue. Hein. Bon, il dit, on laisse faire. Hein. Ça peut toujours me servir un jour, des fois. Hein. On ne sait jamais. C'est vrai que ça pouvait servir. Oui, c'était échange après. Hein. Bon, on a laissé faire cette affaire-là. Et une autre fois, c'était en 44, ça, début 44. La résistance était déjà organisée. Il y avait déjà des groupes armés dans les maquis, hein, qui se regroupaient. Donc ils avaient besoin, ces camarades-là, de se déplacer. Il nous fallait des voitures, il nous fallait un tas de choses. Donc un jour, mon père me dit, dis donc, Raymond, en parlant du patron, il n'aurait pas des stocks d'essence, des fois. Je dis, si, il y a 400 litres qui sont camouflés là-bas, dans une grange, sous du bois. C'est moi qui l'avais fait, alors je savais très bien. Alors bon, on organise la séance. C'était prévu. Les copains viennent, les gars du maquis. Moi, j'étais cantonné domestique. On arrive pour déjeuner. Si le déjeuner n'est pas tout à fait prêt, on ne va pas vous dire, tiens, tu lis le journal. Hein. Non, il ne fallait pas lire le journal. Il fallait aller scier du bois pour la patronne, alimenter la gazinière, tout ça, amener le bois et tout. Il fallait toujours faire quelque chose. Donc, j'étais en train de scier du bois. Les copains arrivent avec deux tractions. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Quand je les ai vus arriver, mitraillettes, les grenades sur tout le machin, la ferraille que ça fait quand on se déplace. Alors, il me dit, le patron n'est pas là. Et bien, je dis non, il y a la patronne. Alors, il va voir la patronne. La patronne était au courant de rien. Elle, hein. Quand elle les a vus, elle tremblait comme une feuille. Alors, bon, il interroge et tout, et comme elle ne savait rien. Ah, elle dit, vous voulez rien dire, on va s'en prendre à votre commis. Allez, hop, ils viennent me chercher, me brutalisent un petit peu, me montent à la voiture, et puis allez. Et puis on avait fait combien, 200 mètres, je dis, bon, vous tournez par là. Le camion est arrivé, on a embarqué l'essence. Vous voyez, voilà. Le soir, le patron arrive, elle lui raconte le coup. Ah, ouais, elle dit, qu'est-ce que j'ai eu peur, hein, les maquis sont venus. Puis moi, j'ai dit, écoutez, vous voulez me descendre, hein? Oh, ouais, j'ai dit que c'était elle. Il me dit, t'as bien fait. Voilà. Et ça se passait comme ça. Et c'était... Et... Honnêtement, ça me faisait quelque chose. Parce que j'étais bien chez mon patron, là. J'ai dit, merde, j'ai trahi mon patron quand même, hein, c'est vrai. Je le faisais pour la patrie, pour la France quand même. Mais au fond de soi-même, hein, on est honnête, nous, on n'était pas des... Vous voyez, je me disais, merde, on fait ça à mon patron quand même. Merde, ça... Vous voyez, ça me choquait un peu. Ben, ça passait vite, hein, parce qu'on travaillait pour la bonne cause quand même. Et après la guerre, mon patron n'a jamais voulu, hein. On a réquisitionné une bétalière aussi, etc. Parce qu'il nous fallait des bétalières plus tard pour transporter le bétail pour nos cuisines. Il fallait qu'on mange. On était... En cette année, je vais y revenir peut-être si on a le temps. C'est l'organisation de la résistance armée. Vous voyez, on n'était pas des groupes isolés. Nous avions un état-major, nous avions des chefs, on était commandés, on faisait les tâches qui nous étaient indiquées. On ne faisait pas n'importe quoi dans la résistance. Vous voyez. Donc. Je m'explique ces anecdotes parce que c'est du vécu. Vous voyez, c'était pas facile. Mais dans nos milieux ruraux, l'Allemand n'était pas là. L'Allemand occupait les centres, les grands centres. Il était à Limoges, dans les grands chefs-lieux de canton. Mais dans les campagnes, il fallait se méfier de la population. C'est la population française qui était dangereuse. Les Allemands, ils ne savaient pas quelles étaient nos opinions. C'est bien le voisinage qui savait quelles étaient nos opinions. Donc c'est eux qui renseignaient l'ennemi. Les Allemands étaient surpris de voir l'importance de la délation en France. Vous voyez ? Donc il fallait se méfier de tout le monde. Il y avait des villages qui nous étaient acquis entièrement. En juin 1944, je suis rentré dans la résistance armée. Moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. Je suis rentré dans la résistance armée à 17 ans, le 1er juin 1944. Nous étions dans un village. Moi, je n'ai pas vécu la résistance armée dans les bois. Nous étions dans les villages. Les villages acquis à la cause de la résistance entièrement. Nous étions dans une ferme isolée. On faisait notre cuisine. On couchait dans les granges. Vous voyez ? Mais la population savait qu'on était là, dans le village. Tout le monde savait qu'on était là. L'endroit où on était, on barrait les routes. Personne ne pouvait approcher du camp. Il y avait des postes de fusils mitrailleurs. C'était nos armes les plus perfectionnées qu'on avait, les fusils mitrailleurs, mais ça faisait du dégât, nos fusils mitrailleurs. Hein. Les Allemands, quand ils nous attaquaient, ils y laissaient des plumes quand même. Hein. Donc, les routes étaient barrées, personne n'accédait, y compris les paysans du coin. N'accédaient pas, ils étaient fouillés. Parce que les Allemands auraient pu utiliser leur véhicule, leur charrette, avec du foin dedans ou n'importe quoi, pour se cacher, pour rentrer chez nous. Personne ne rentrait. Y compris nos véhicules quand ils rentrent. Parce qu'on avait, fin juin 1944, on avait des camions, on avait des voitures, on avait tout un tas de matériel. On était comme une armée régulière. En plein régime fasciste, occupé par l'ennemi, avec un État fasciste, avec ses tribunaux, sa police, son armée, parce que les GMR, ces gardes mobiles de réserve qui avaient été créés uniquement contre la résistance. Ils étaient nombreux. Et puis il y avait la milice. Tout ça, c'était contre nous. La particularité de la résistance, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une guerre classique, comme la guerre 14-18 que vous avez sans doute entendu parler, avec le 100e anniversaire de la fin de cette guerre, il y avait un front, il y avait des tranchées où les belligérants s'affrontaient. Mais nous, les résistants, on n'avait pas de front, nous. Le front, nous, il était en permanent autour de nous. La lutte que nous la menions au sein même du dispositif de l'ennemi. Vous voyez ? Les résistants qu'il y avait à Tours ou à Saint-Pierre-des-Corps, il y avait l'occupant qui était autour. Nous étions au sein du dispositif ennemi. Ça veut dire que le danger pour nous était jour et nuit, à toute heure du jour et de la nuit. On n'allait pas au repos, nous, dans des lignes arrière. Le front était partout pour nous. Oui. Organiser la lutte armée dans un pays occupé par une armée allemande qui n'était pas une armée de polichinelles, hein. De soldats allemands, ils savaient faire la guerre. Hein. Et puis, ils étaient armés. C'était pas des soldats d'opérette, hein, les soldats allemands. Et je parle pas des SS, hein. C'était autre chose. Vous voyez ? Donc nous, l'armement que l'on avait, c'était dérisoire par rapport à ce qu'ils avaient. Vous voyez ? On ne pouvait pas mener un combat comme une armée régulière. On n'avait pas les moyens de le faire. Dans les villes, comme à Paris, comment nos camarades pouvaient se battre pour faire la guerre à Paris ? Ils ne pouvaient que s'en prendre individuellement qu'à des soldats individuels, qu'à des officiers. On choisissait des officiers autant que possible. On ne pouvait pas amener un combat de front à Paris à l'époque. Oui. Donc, c'était presque des assassinats. On nous l'a présenté comme ça. Aller descendre un officier comme ça dans le dos, c'est pas simple, hein. Même si vous êtes résistant, même si vous êtes convaincu que c'est un ennemi, c'est un homme. Oui. Et tout le monde n'était pas d'accord pour faire ça. Mais il a fallu le faire. Il a bien fallu le faire. Il y a des hommes qui l'ont fait. Flavien, il l'a fait. Fabien, il l'a fait. C'est le premier qui a tiré sur un soldat allemand. Et ça s'est répercuté, mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces communistes qui étaient dans les prisons, ils ont servi d'otages. Chateaubriand, 27 patriotes de Chateaubriand, des députés, des parlementaires, des cadres du Parti communiste ont été fusillés. Est-ce qu'il fallait le faire ? On se pose des questions encore aujourd'hui, nous, les résistants. Oui. Ça a été fait. Et ça a été bien fait. On ne va pas dire le contraire. Il fallait bien attaquer, faire quelque chose dans les villes. Mais dans les milieux ruraux, comme en Limousin, comment on pouvait attaquer l'Allemand également ? On pouvait l'attaquer que par la guérilla, par surprise. On n'avait pas les forces de mener un combat de front. Les gros maquis que De Gaulle a voulu faire en attendant la libération de la France, le Vercors, les Glières, Montmouchet, Saint-Martin, tous ces gros maquis qui étaient prévus, où on avait rassemblé des hommes, des centaines d'hommes et de l'armement, ça a échoué. Tous ces maquis ont échoué. Ils ont disparu dans des conditions atroces, en entraînant des morts de patriotes, de bons patriotes, et de populations civiles également. Vous voyez ? Ça ne pouvait pas tenir contre une armée allemande telle qu'elle était organisée avec les forces qu'elle avait. Seule la guérilla était en mesure de porter des coups à l'ennemi. Oui. Et comment on pouvait porter des coups à l'ennemi, nous ? Parce que c'est des questions qu'on nous pose quelquefois, les jeunes comme vous. Attaquer un convoi, les Allemands n'étaient pas bêtes non plus. Ils savaient faire la guerre. Il fut un temps, parce que je parle de ma région à moi, où nous avions les forces de la résistance, c'était assez considérable. Par rapport à d'autres régions, par rapport à la région d'ici, par exemple. Parce que le terrain s'y appropriait. C'était un pays de moyenne montagne, boisé. C'était facile pour nous de nous cacher, de nous mettre en position, d'attaquer l'ennemi et de se replier. Parce qu'on ne pouvait pas tenir un combat. Au bout de quelques minutes, il fallait partir. Pour la simple raison, c'est que les Allemands, quand on les attaquait, on attaquait un convoi, par exemple. Quand ils se déplaçaient en convoi, les camions ne roulaient pas à 100 à l'heure. Hein. Il y avait toujours un blindé devant, peut-être au milieu, et puis un derrière. Et dans les endroits qui leur paraissaient suspects, où il y avait un petit bois sur une montagne, comme ça, une petite butte, avant d'y aller, ils bombardaient. Il foutait quelques obus là-dedans pour nettoyer, avant de passer. Parce qu'ils se disaient, ils sont peut-être là-dedans. Vous voyez ? Donc si on y était, on dérouillait. Hein ? Donc il fallait choisir des endroits pour pouvoir les attaquer convenablement. Mais les camions ne se déplaçaient pas vite, mais ils se déplaçaient espacés. Ils avaient au moins 50-60 mètres d'espacement. Ce qui fait que là où nous étions, on ne pouvait pas attaquer deux camions, on ne pouvait qu'en attaquer qu'un. Bon, on attaquait le camion, bon, celui-là, il était mort. Hein. Mais il ne fallait pas rester là longtemps. Il fallait rester là une minute, deux minutes, c'est tout. Parce que les autres, ils descendaient des camions et ils nous encerclaient. La tactique des Allemands, c'était de nous prendre en tenaille. Donc la tenaille, il fallait, pour l'éviter, il ne fallait pas rester là, il fallait vite partir et se disperser. Les camarades qui ne se dispersaient pas, ils étaient pris. Alors là, c'était nous, ce n'était pas la déportation, nous. On était torturés et fusillés sur place, dans des conditions atroces. Vous voyez ? On le savait. On savait ce qu'on risquait. On était des volontaires. N'oubliez pas que tous les résistants étaient des volontaires. Vous voyez ? C'est important de le souligner, ça. On savait ce qu'on risquait. Voilà. Donc, voilà les conditions de la guerre telle qu'elle se passait. Or, dans notre région, à partir de juillet 1944, on était pratiquement les maîtres de la région. Les Allemands n'osaient même plus sortir de Limoges. Quand ils sortaient, il fallait qu'ils sortent en force. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient attaqués et c'est les plumes... Ça leur coûtait très cher en vie humaine. Hein. Ça nous coûtait cher, nous aussi. Alors, l'autre danger qui nous concernait directement, c'est quand on attaquait des camions ou des Allemands, le gros problème, pour eux, comment riposter à nos attaques, c'était la répression. Si on tuait des Allemands, ils s'en prenaient à la population, aux civils. C'était la répression. Et on était obligé d'en tenir compte. Il nous était interdit d'attaquer des convois près des agglomérations, près des villages. Parce que, à chaque fois, c'était des populations innocentes qui payaient les pots cassés. Parce que nous, on partait. Mais les gens qui restaient, c'est eux qui payaient. Vous voyez ? Donc la population, elle finissait par nous critiquer en disant « Mais arrêtez de tirer sur eux, puisque c'est nous qui... » Et effectivement, ça pouvait être nos parents qui servaient d'otages, des amis ou des gens qui nous ravitaillaient. Donc à un certain moment, on était obligé de faire très attention à nos actions de résistance en direction de l'ennemi, parce qu'il y avait ces représailles. Et que ça coûtait très cher, la population. Moi, je me suis vu, le 14 juillet 1944, on a été présenter les armes dans 6 communes de la région où on était, du canton, au monument aux morts de 14-18. Et quand nous arrivions dans la commune, le détachement qui arrivait dans la commune, et personne pour nous recevoir. Les gens avaient peur. Ils nous disaient, ça y est, vous nous amenez des ennuis. Là où on passait, les Allemands arrivaient, ils pensaient que les gens étaient d'accord avec eux, avec nous. Donc, ils avaient peur des représailles. Or, je me souviens, là, moi, on descendait, on défilait au monument, on descendait en bordure de commune, on défilait dans la commune, parce que même étant dans les bois, on savait marcher ou pas. Enfin, c'est pas le 14 juillet à Paris, hein, bien sûr. Mais enfin, on marchait ou pas, on savait présenter armes, et puis faire le demi-tour réglementaire. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les armées d'aujourd'hui, hein, vous comprenez bien. Mais enfin, on le faisait. On apprenait à faire ça, parce qu'on était l'armée de la France. Vous voyez ? Donc on était disciplinés pour faire ces choses-là. Donc on défilait, on allait au Monument aux Morts, on montait le drapeau, on présentait les armes, et puis on rentre. Et bien, on voyait bien derrière les fenêtres, les rideaux qui bougeaient. Les gens nous regardaient par les fenêtres, mais ils ne sortaient pas. Et en revenant, ben, les gens commençaient à sortir, sortir. Puis quand on est arrivé au camion, ben, les gens étaient là pour nous applaudir. Vous voyez ? C'était ça. Ils avaient, quand ils nous voyaient arriver, ils avaient cette peur de dire, si les Allemands arrivent, c'est nous qui allons prendre. Et effectivement, dans les villages où on allait, je pense à cette ferme-là, un château tenait quand... juste avant, au moment où je suis rentré, une partie de la compagnie a logé dans un château. On avait l'accord du propriétaire. Mais le propriétaire n'était pas là, il était absent, mais nous, on avait l'autorisation d'être dans le château. L'état-major de FTP sortait de Limoges à ce moment-là. Il était dans le château. Donc, ce jour-là, on avait... Je ne me rappelle plus ce que je voulais vous dire, mais on avait arrêté des miliciens. Hein. Donc, ces miliciens, ils étaient deux. On les avait fermés dans un toit à cochon, avec un cadenas. Et dans la nuit, quelqu'un a ouvert le cadenas, et les deux miliciens sont échappés. Ils ont rejoint Limoges, parce que c'était à combien, à 10 km de Limoges, hein, pas plus, le château. Et évidemment, le lendemain, il a fallu évacuer évidemment le château tout de suite. Hein. Donc l'état-major de là sont partis dans les côtés de Blon. Et c'était notre compagnie qui était là. Vous voyez ? Eh bien, les Allemands sont venus, ils ont encerclé le château, évidemment, mais on n'était plus là, nous. Mais ils croyaient qu'on était là encore. Et ils ont brûlé le château. Vous voyez ? Donc, voilà, là, on a été dans une ferme après. Bon, quand nous sommes partis de la ferme, ben, la ferme, elle a brûlé également. Vous voyez ? Donc, ces gens-là, évidemment, les propriétaires sont partis. Mais dans les endroits où les gens ne pouvaient pas partir, c'est les gens qui ont payé. C'est les gens. Nous, on partait, mais les gens qui restaient, c'est eux qui payaient. Et où le reste ? Donc, voilà les difficultés de notre combat. C'était pas simple. C'était pas facile, vous voyez, pour combattre la nuit. Et celui qui a ouvert le cadenas, quelqu'un a ouvert le cadenas. On n'a jamais su qui c'était. Ma femme, on s'en est douté. On a eu des doutes. Mais on n'avait pas de preuves. Et ce gars-là, on l'a tellement suspecté. Je vous dis ça comme ça, mais la sécurité du groupe, parce qu'on était à l'époque environ 120 combattants de la compagnie. Après, nous sommes montés à 180, la compagnie. Il a fallu l'éliminer. Il était tellement suspecté qu'il a fallu l'éliminer. Vous voyez ? Pour assurer la sécurité des autres. Oradour-sur-Glane, moi j'ai connu Oradour-sur-Glane. Vous voyez ? J'ai connu Oradour-sur-Glane. J'étais de ceux qui... les premiers qui sont entrés dans Oradour-sur-Glane dimanche matin. Le crime s'est produit dans le samedi du 10 juin, dans l'après-midi et dans la nuit. Et le dimanche matin, moi, j'étais dans Oradour-sur-Glane, avec des copains. C'était l'ordre d'y aller. Hein. On avait l'ordre d'aller voir ce qui s'était passé. Et je suis dessus, les deux, avec un autre camarade, nous avions l'ordre d'aller voir si les Allemands étaient encore à l'intérieur. Vous voyez ? Parce que dans la résistance, la compagnie, ma compagnie, c'était la 2401e compagnie, FTP, 4e bataillon et 1er régiment Bernard des Charentes, nous étions une armée. On obéissait aux ordres. Quand on avait des ordres, il fallait les appliquer. Et je suis de ceux qui étaient avec un autre copain, aller voir si les Allemands étaient encore dans le bourg, qui fumaient encore. Vous voyez ? Alors, pour tout dire la vérité, j'y ai pas été comme ça, l'arme à l'épaule. Hein. C'est la guerre. On y était en guerre. Hein. Donc la guerre, c'est toutes les précautions qu'il fallait prendre pour s'infiltrer dans le bourg et voir si vraiment il y avait quelqu'un. Et comment vous faites ? Il faut beaucoup, faut entendre. S'il y a des sons, s'il y a des bruits, s'il y a quelque chose. Là, c'était un silence de mort, Ado. Hein. 642 personnes, des enfants qui sont brûlés, vivent dans l'église avec les femmes. Vous connaissez au radeau, hein ? Non, pas trop. Les Allemands ont brûlé toute la jeunesse, les enfants des écoles et les femmes dans l'église, brûlés vifs. Hein ? Et les hommes ont brûlé dans les granges. J'ai un beau-frère, moi, qui était parmi les rescapés, les 5 rescapés de la grange. Un beau-frère. Mon épouse, parce que je me suis marié avec une femme de Radour, c'est encore toute ma vie, mais si je devais vous le raconter, il faudrait toute la journée. Vous voyez, donc, je ne sais pas à l'heure qu'il est, là, mais le temps passe. Alors, donc, mon épouse a perdu 21 membres de sa famille à Radour-sur-Glane. Et mon beau-frère, moi, il est décédé il y a bien longtemps, 18 de ce qu'il a vécu là-bas. Ils se sont sauvés comme ils ont pu, mais ils avaient les cheveux brûlés, les vêtements brûlés et tout ça. Ils ont réussi à passer dans les flammes, la fumée, à réussir à s'échapper. Mais ils ont été mitraillés devant. Ils étaient dans une ferme, et les mitrailleuses ont tiré sur eux. Eux, ils se sont couchés, ils sont tombés. Ils avaient du sang partout, parce que ceux qui ont été mitraillés, le sang coulait. Donc ils étaient couverts de sang. Quand les Allemands ont donné le coup de grâce, ils ont pensé qu'ils étaient morts, parce qu'ils faisaient les morts. Ceux qui étaient blessés, eh bien, ils criaient, ils avaient mal, bien sûr. Mais eux, comme ils n'étaient pas blessés, ils ont fait les morts. Donc, quand ils ont retourné les corps, ils n'ont pas eu le coup de grâce. Hein. Donc, quand les flammes sont arrivées, ils ont réussi à s'échapper, ils ont passé dans les poulaillers, tout ça. Enfin, c'est toute une histoire, ça serait là à raconter. Donc, voilà. Hein, au radeau, j'ai connu ça. Hein. Et quand vous avez vécu cette période, ça sentait le cramer, ça sentait. Vous n'avez pas connu dans les campagnes quand on fait brûler le cochon, hein, quand on tuait le cochon à l'époque. Ça sentait on fait brûler la paille, tout ça, la peau du cochon. On fait griller les poils, donc ça sent le roussi. Et bien, ça sentait ça un peu, vous voyez, dans le bourg. Hein. Il y avait du noir partout. Ça fume encore. Quand vous voyez des scènes comme ça, ça vous marque une vie, vous savez. Hein, voilà.
Alors, je vous propose une petite pause, le temps que vous buviez un verre d'eau.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, je vais interviewer rapidement Monsieur Coudreau, donc le professeur d'histoire, histoire géo, éducation morale et civique de ces deux classes de 3e A et B. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une rencontre entre Monsieur Souris, président de l'Association nationale des anciens combattants et ami de la résistance, la NACRE, avec donc des collégiens de 3e. Monsieur Coudreau, pourquoi avez-vous proposé cette rencontre à vos élèves ?
Je crois que c'est important que les élèves découvrent aussi l'histoire à travers un autre regard, un regard de la part de personnes qui l'ont vécu. C'est important de voir aussi que tout ce qui a été fait en classe, tout ce qu'on a vu à travers des manuels, des témoignages, des films, qu'ils se rendent compte aussi que ça, ce sont des choses qui ont été vécues par des personnes à cette époque-là. Et avec Monsieur Souris, que je remercie d'ailleurs de venir faire ces témoignages, ils ont la chance d'entendre ces témoignages directement, de pouvoir poser des questions et de pouvoir entendre le témoignage direct de la part de quelqu'un qui l'a vécu et qui y a même participé.
Que peut apporter un témoignage à la compréhension de cette période de l'histoire mondiale et de l'histoire de France en particulier ?
Mais je crois que ce qui ressort le plus, c'est de voir que les événements sont complexes. Ce qu'a vécu Monsieur Souris et ce qu'ont vécu les Français à cette époque-là, c'est pas quelque chose de simple. On ne peut pas ranger les gens dans des cases en disant voilà, il y avait les bons, il y avait les méchants, il y avait les résistants, il y avait les gens qui collaboraient. Les choses étaient complexes et le témoignage de Monsieur Souris fait bien ressortir cette complexité. On voit bien que ce sont des personnes qui se posent des questions, qui font des choix et que ces questions, elles sont pas toujours simples, les réponses sont pas toujours simples. On parlait du fait d'entreprendre des actions qui entraînent soit directement, soit indirectement la mort ou la destruction de villages ou de personnes. C'est pas des choix faciles à faire, et ça, je crois que ça amène aussi les élèves à réfléchir à cette complexité. Et à se poser aussi des questions par rapport aux choix que feront plus tard.
Mmh. Alors, il s'agit d'un témoignage historique. Vous êtes professeur d'histoire, géographie, mais également d'éducation morale et civique. Est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation morale et civique? Est-ce qu'il y a une transversalité entre l'histoire et cette autre matière qui est l'EMC, l'éducation morale et civique?
Ben, je le pense. Hein. Je pense que d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce sont les professeurs d'histoire et de géographie qui sont chargés de cet enseignement. Ici, le lien, c'est que, comme je le disais, les personnes qui se sont engagées dans la résistance ont fait des choix, et ça a été souvent des choix aussi en tant que citoyens. On n'en a pas discuté, mais il y a aussi un lien très fort avec les valeurs de la République. Et souvent, les gens qui se sont engagés dans la résistance l'ont fait aussi pour défendre ces valeurs. Et donc, c'était un choix de citoyen, c'était un engagement de citoyen. Donc l'engagement citoyen, comme le disait Monsieur Souris, ce sont des choses qui évoluent au fil des circonstances, par rapport aux périodes qu'on vit. Et les élèves, en tant que citoyens eux-mêmes, feront des choix plus tard. Donc je crois que c'est là-dessus que le lien est fort.
Vous voulez revenir sur quel point, Monsieur Souris ?
Je voulais revenir sur une idée quand même qui est essentielle. C'est qu'on s'est battu pour la liberté. On s'est battu pour la démocratie. Vous voyez ? On s'est battu pour des idées. On ne s'est pas engagé dans la résistance simplement pour aller s'en prendre aux Allemands. On s'est battu contre un régime qui rendait la vie intolérable aux gens. Vous voyez ? Vivre un pays où il n'y a plus de liberté, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc on s'est battu pour la liberté. On s'est battu pour la démocratie. Et ceux qui dirigeaient la résistance ont tenu compte de ce combat. Parce que la résistance, j'ai parlé de la résistance communiste, la résistance gaulliste, mais elle regroupait autour soit des uns, soit des autres, un tas de gens qui avaient des idées différentes, mais qui se regroupaient. C'est ainsi que il a bien fallu prévoir, à un moment donné, la France de demain, à l'époque. Donc toutes ces différentes tendances de la résistance ont réussi à se regrouper au sein de ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance. Ce Conseil national de la résistance, dont nous vivons encore aujourd'hui les avantages, acquis, qu'on est en train de détricoter, puisque ce mot détricoter est à la mode, hein, on est en train de tout détruire, ce qu'on avait conquis à l'époque. La sécurité sociale, par exemple. Vous voyez ? On avait, avec ce Conseil national de la résistance, ce Conseil national de la résistance avait prévu deux choses. D'abord, organiser la lutte armée de toutes les forces qui existaient à l'époque, et ensuite prévoir un gouvernement pour la France, une république pour la France. Et c'est là que la résistance intérieure a été importante, parce que les États-Unis avaient prévu, à la libération du territoire, ils avaient prévu une administration pour la France. Ils voulaient mettre la France sous protectorat. Parce que quand on a bien sûr été trop vite en histoire, mais quand en 1942, les Alliés ont libéré l'Afrique du Nord, enfin l'Algérie, le Maroc, c'est là que les Allemands ont occupé la zone sud. Mais les Américains avaient prévu de s'entendre avec Pétain, avec le général Giraud. C'est la résistance algérienne qui a, à l'époque, réussi à changer le cours des choses. Et puis la résistance française. Ils avaient prévu, l'Angole, une administration pour la France. Ils avaient prévu de la monnaie. Tout était prévu pour placer notre pays sous protectorat. Mais la résistance française, elle, à la libération, elle avait prévu ces comités de libération qui ont pris la place à l'administration américaine, voyez. Donc la résistance française a joué un rôle très important. Donc je tiens à insister quand même sur cet aspect qu'on se battait pour des idées. Et sans ces idées, des fois je les répète souvent dans mes interventions, sans ces idées pour lesquelles on se battait, nous aurions été comme des voiliers sans vent. Vous voyez ? C'est les idées qui nous amenaient à se battre pour la liberté, pour la démocratie. Et puis, il fallait se battre aussi pour libérer le pays. On n'a pas parlé de la déportation. Il y a des millions de gens qui étaient dans les camps de la déportation. Vous voyez ? Il fallait bien libérer un jour ces camps. J'ai pas parlé de la torture non plus. Parce que nous, quand nous étions pris, c'était la torture. La torture, c'était la seule chose qui nous faisait peur, nous. Ce n'est pas les pelotons d'exécution qui nous faisaient peur. On savait très bien que si nous étions pris, c'était ce qui nous était réservé. Mais la torture, c'était insupportable. Comment des hommes peuvent torturer d'autres hommes à mort ? Jean Moulin qui a été torturé à mort. Comment peut-on torturer quelqu'un d'autre à mort ? Vous voyez ? Voilà des questions qu'il faut se poser, même aujourd'hui. Parce que ces situations-là, on les a connues ensuite, par la suite, avec les guerres coloniales. Vous voyez ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable de faire ces choses-là ? Mais bien sûr, on est capable. On le voit dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est capable de tuer par idéologie. On est capable de tuer par croyance. On est capable de tuer parce qu'on a des ordres de le faire. Vous voyez ? On est tous capables de faire ça. Donc l'avenir que vous allez construire, parce que la société que vous allez construire demain, c'est vous qui allez la construire. Elle sera ce que vous allez la faire. Hein. J'ai essayé d'écrire, moi, pour mes petits-enfants, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, tout ça. Mais je ne le ferai jamais. Mais j'avais écrit un préambule où j'expliquais qu'en l'année 1927, il y avait 2 milliards d'habitants sur cette terre. En 1927, 2 milliards d'habitants sur cette terre. Nous sommes en 2018. J'ai 92 ans, le siècle n'est pas terminé. La population du monde a presque quadruplé. Nous tournons autour de 8 milliards d'habitants sur cette terre aujourd'hui. Vous voyez ? Eh oui. On prévoit 11 milliards d'habitants à la fin du siècle. Mais c'est des gens, ça. Faut leur donner de l'air pur, de l'eau potable. Il faut leur donner du travail. Il faut leur donner des conditions de vie décentes. Vous voyez ? C'est votre tâche, à vous, à demain, cela. Vous voyez ? Nous, on s'est battus pour que vous ayez une vie meilleure. La société que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on aurait voulu, nous. On aurait voulu vous donner une autre société que celle-là. Notre héritage, nous, c'est autre chose que ce que vous avez aujourd'hui, on aurait voulu vous donner. Vous voyez ? On s'est battu pour que vous soyez plus heureux que vous n'êtes aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas été suivis. Et alors, nous, ce qu'on demande, si j'étais déporté, je vous expliquerai ma déportation, ce que j'ai vécu en déportation. Ça vous donnerait de la tristesse, bien sûr, hein, de vivre ce qu'ils ont vécu. Mais moi, je n'ai pas été déporté. Je me suis battu pour la liberté. Mais il ne faut pas pleurer, ce moment. On savait, nous, qu'on allait, si on était pris, hein, combien de camarades, moi, qui auraient été tués. Vous voyez ? Donc il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort, nous. Il faut s'imprégner de ce que nous avons fait. On s'est battu pour la liberté, on s'est battu pour changer la société, pour un monde meilleur, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'on supprime le mot ennemi de notre vocabulaire. Eh bien, je pense que ce combat-là, il faut le continuer. Vous voyez ? Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de misère. Et puis qu'on ne soit plus des ennemis entre nous. Vous voyez, je crois que C'est ce que... Je vais terminer peut-être là-dessus, parce qu'il faut bien qu'on termine, je regarde l'heure. Mais c'est bien de vous montrer le combat que nous avons mené, c'est un combat pour la liberté. Et le combat pour la liberté, il est permanent. Il y a encore combat aujourd'hui pour cette liberté. Quand je vois ces lycéens qui ont été mis en prison, qu'on les a fait mettre à genoux, les mains derrière le dos. Mes camarades m'ont fait passer une photo, mes camarades qui sont de la nacre, m'ont fait passer une photo de l'époque où les résistants, on les mettait dans les mêmes positions. Eh bien moi, à la place de ces lycéens-là, je ne me serais pas mis à genoux, moi. Parce que nous sommes en démocratie quand même, en république. Moi, je ne me serais pas mis à genoux. Je serais resté debout. Voyez. Voilà. Je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Monsieur Souris. Je vais me tourner à présent vers Hicham, Gundeba et Rania, à qui je vais poser la même question. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Qui d'entre vous veut commencer?
Bonjour, je m'appelle Hicham. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait questions et des réponses. Néanmoins, ça m'a peiné au moment où il nous a dit comme quoi, quand il était jeune et qu'il voulait être, il avait des rêves, et que du jour au lendemain, il était à la ferme en train de nourrir des vaches. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé comment ça se déroulait et comment M. Souris parlait.
Est-ce que ça t'a permis d'apprendre des choses que tu ignorais sur cette période de l'histoire?
Oui, le fait qu'il donne des hypothèses et eux des anecdotes à lui, ça m'a donné plus de précision sur ce qu'on a appris en cours.
D'accord. Alors en cours, j'imagine, vous travaillez avec des projections sur ce qu'on appelle un TBI, peut-être un tableau blanc interactif, des livres. Là, c'est une rencontre avec une personne qui une mémoire vivante, hein, un témoignage vivant. Qu'est-ce que ça apporte de plus?
Ça a un autre point de vue. On a un autre point de vue par rapport à ce qu'on apprend en cours, parce que là, c'est une personne qui a vécu la chose et qui nous donne plus d'informations.
Et concernant l'éducation morale et civique, est-ce que tu y vois un lien?
Oui, j'y vois un lien.
Lequel? Je sais pas ce qui est rigolo.
Le fait que Monsieur Souris nous donne des informations.
D'accord. Merci Hicham, Gundeba, Rania, qui veut poursuivre? Oui.
Moi, je trouvais intéressant de voir qu'une personne qui a vécu justement cette période nous en parle, parce qu'on peut pas on peut pas avoir le même ressenti qu'eux qui ont vécu la chose alors que nous non. Après, je pense que c'était extrêmement stressant pour eux de vivre sous cette pression et sous la peur de se faire prendre tous les jours. Et voilà.
Concernant l'éducation morale et civique, est-ce que tu vois un lien?
Comme il le dit, il s'est battu pour la liberté, pour que nous on vive comme ça aujourd'hui, et voilà.
Merci Gundeba, et on va conclure avec Rania.
Alors, je parle.
Oui, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre?
Moi je trouve que c'est très bien qu'il soit venu nous faire cette intervention pour... C'est très intéressant de voir comment il a vécu ça, parce que c'est bien expliqué, il donne des anecdotes, c'est rhétorique, on dit. Je ne sais pas comment on dit.
Il faut le dire simplement, sans mots compliqués.
Et questions-réponses. Quand on fait les questions-réponses, un dialogue, voilà.
C'est suffisant, pas besoin d'en dire plus. Hein. Merci Hicham, Gundeba, Rania. Merci Monsieur Coudreau aussi d'avoir mis en place cette initiative.
De rien.
Bien évidemment, merci Monsieur Souris.
Merci beaucoup.
Merci surtout à vous. Merci aux élèves de m'avoir écouté.
Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Bondi Bloc Centre Café.
Bondibloccentre.fr